Bonsoir à tous, ça va bien? Si je manque de voix dans la soirée, ça fait 3 jours que je suis pogné. Des effets secondaires, ça se peut que je devienne vert, les muscles qui gonflent. Faites-vous en pas, c'est normal, il paraît. Je vais te tourner dans Éphésiens, chapitre 6. Aujourd'hui, le texte qui m'a été donné de pouvoir apporter la parole, c'est Éphésiens chapitre 6, en particulier les versets 14 et 15. Mais ça, c'est un peu une coupure arbitraire, pas au sens où c'est pas correct, loin de là, mais c'est parce qu'il s'incruste dans un paragraphe en entier, et on a voulu le diviser en plusieurs sections. Mais il est difficile de juste prendre ces deux versets. Je me suis cassé la tête pendant beaucoup de semaines à savoir comment vais-je apporter ça. Et c'est pour ça qu'on va lire le paragraphe en entier, c'est-à-dire à partir du verset 10 à 20, pour que vous puissiez avoir en tête le contexte dans lequel ce passage nous est présenté. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les cieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez à toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut te demander de guider nos cœurs, et mon cœur premièrement. On est dans un texte qui nous parle d'un combat spirituel, et pour nous, en Amérique, on doit avouer que ça nous semble pas exister. Mais rends-nous sensibles à ce combat, Seigneur, mais aussi aux armes que tu nous donnes de revêtir afin qu'on puisse entrer dans ce combat de façon convenable, Seigneur. Amen. Et la fin de semaine, c'était la conférence Sola. Et il y avait un des invités, Dan Anderson, qui m'a donné l'idée de départ pour la prédication, du moins pour son illustration. Et son illustration, c'était dans un autre contexte complètement, mais je trouve qu'elle illustre quand même assez bien de quoi parle le texte. Il était sur un trajet d'avion, et puis il s'en allait donner des conférences, ou il revenait de donner des conférences en quelque part, et puis dans l'avion, il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Et puis là, ben vient un moment où, tu sais, dans les avions, on distribue de la nourriture. Et puis là, ben est arrivé pour lui donner de la nourriture. Puis lui, il l'a refusé. Il a continué à prier. Puis il a jeûné tout le long du trajet. Puis c'était un trajet qui était relativement long. Et puis lui, ben quand il a eu l'occasion, il est allé l'aborder. Puis il dit, hey, j'ai vu que tu priais. Puis en plus de ça, tu jeûnais? Tu dois être chrétien? Il dit, non, il dit, loin de là. Il dit, je suis sataniste. Il dit, OK, mais quel est donc, pourquoi tu priais puis que tu jeûnais? Et puis la réponse m'a vraiment surpris. C'est que Satan nous demande de prier et de jeûner au moins une fois par semaine. une journée, une fois par semaine? Et quel est le contenu de tes prières? Et la réponse a été ceci. La chute des familles. L'affaiblissement de l'unité sociale. Il prie pour que la société s'écroule, que les piliers de la société s'écroulent. Et là, on discutait de l'exemple qu'il avait donné de cet homme qui se disait sataniste. Et au cours de la fin de semaine, il y a eu plein d'autres personnes qui m'ont donné d'autres exemples de choses. Et il y avait des groupes en Californie, il semble avoir le centre principal des satanistes dans le monde. Ça semble être en Californie, là, ce qu'on m'a dit. Et puis, lors d'une réunion, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, il y a une gang de personnes qui prient. » Ça doit être des chrétiens, fait qu'ils s'en vont là, mais non, ils ont des satanistes, puis ils ont fait, là, je sais pas comment ils ont appelé ça, mais l'objet des prières, c'était la chute des leaders chrétiens. Le chrétien est en guerre. Mais quelle sorte de guerre? On dit c'est une guerre spirituelle. Mais il est où l'ennemi? C'est quoi sa stratégie? Puis je pensais à ça en m'en venant, je m'imaginais, je devais avoir 9 ou 10 ans environ, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais ce jour-là, j'étais comme fâché contre Satan, tu sais. Puis là, j'étais dans la cour chez nous, non, tu m'auras pas, puis pointe-toi, tu sais, puis je frappais, tu sais, ah ouais, pointe-toi, tu sais, c'est... Et contre qui qu'on se bat? Et j'aimerais commencer par quelques réflexions concernant Satan et ses anges qui vont nous aider à comprendre ce combat spirituel qui fait rage et qui, en Amérique, on doit admettre, qui semble nous échapper. Le monde des esprits, le monde des anges, tu sais, je veux dire, quand je suis facteur, des fois, je passe sur des terrains, puis ça arrive à l'occasion que je vois des pancartes, cette maison est protégée par les anges. Tu sais, c'est comme, t'en as-tu déjà vu un? Tu sais, il y a quelque chose qui semble nous échapper. J'ai une de mes tantes qui fait une espèce de psychanalyse ésotérique, surtout en Europe, un voyage en Europe, puis elle a fait des tarots avec les affaires d'anges, puis toutes sortes d'affaires, puis tu sais, dans le bouddhisme, il invoque les esprits, il invoque, mais en Occident, de façon générale, on ne croit pas aux esprits. On ne croit pas à l'existence même de notre esprit. Et puis, la tactique du diable dans ces cas-là, en Amérique, semble être double. La première, c'est qu'on va nier leur existence. Dans un de mes films préférés avec Steven Seagal, il y en a un moment donné qui, le méchant se révèle, tu sais. Et puis là, il se retourne, puis c'est un policier qui est corrompu, puis il dit « La plus grande réussite du diable a été de prouver sa non-existence. » Une des tactiques du diable, c'est, en Occident, semble être le fait qu'il n'existe pas. En Afrique, c'est pas un problème. En Asie, c'est pas un problème. En Amérique latine, c'est pas un problème. Au Québec, c'est un problème. Deuxième tactique qui semble être aussi efficace, puis les deux ont les mêmes conséquences sensiblement, c'est qu'on peut porter un intérêt excessif pour ces choses. J'ai vécu à l'ère du Ouija. Et puis, il y a eu une phase à m'emmener dans mon adolescence où je commençais à penser vers l'adolescence tardive avant de me convertir. J'ai commencé à réfléchir sur le fait qu'éventuellement, peut-être je prends une position pour Dieu ou pour quelque chose d'autre. Faut que je trouve la vérité dans ce domaine-là. Et puis je me rappelle, à un moment donné, ça paraît un peu fou, mais en plein milieu du jour, on sort dans un pit de sable, j'étais avec deux de mes amis, puis là, ils ont fabriqué une planche Ouija. Puis moi, j'ai été éduqué d'une famille chrétienne, fait que je vais pas toucher à ça. Mais en quelque part, je suis pas convaincu que le christianisme, c'est vrai, mais c'est la seule chose que je connais. Alors, je me mets à prier en dedans de moi, puis je me dis, tu sais, Seigneur, faut pas que ça fonctionne. Puis là, il commence à jouer à ça, tu vois la petite plaquette, puis là, je vois qu'il pèse pas sur le chose, puis qu'il dirige pas, puis qu'il dit, ça marcherait-tu? Alors là, oui, dis, embarque, arrête de faire ta petite femmelette, là. Puis, ah ouais, go, là, tu sais, là, on se met à me challenger. Puis, j'ai dit, c'est correct, mais il dit, ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Fait que, pendant que mes doigts s'avançaient, je priais, mais je n'étais même pas chrétien, hein, probablement à cette époque-là. Puis, ça ne marche pas. Alors là, il commence à rejouer après. Ah, c'est parce que tu ne crois pas à ça, puis tu sais, puis. Mais non, s'il y a quelque chose qui existe, qui fait bouger vos affaires, ça ne devrait pas dépendre de ce que j'y crois ou pas. Tu sais bien trop vrai, ça? Ben, tu poses la question, pourquoi ça n'a pas marché? Il va vous le donner. La réponse, c'était pas, c'est parce que quelqu'un y croyait pas. Tout ce que je me souviens, c'était, parce que là, ça y va juste à coup de lettres, mais le mot qui est sorti, c'est « empêcher ». Je suis parti. Quelques semaines plus tard, on a voulu jouer à Ouija avec une gang encore plus gros. Et puis là, ben, j'étais là, fait, j'ai dit, si vous voulez que ça fonctionne, ben, il faut que je m'en aille. J'étais même pas chrétien encore. Et je suis parti, puis là, il paraît que ce soir-là, ça a brassé les portes, toutes sortes d'affaires. Tu sais, mais tu demandes à ces personnes-là, tu crois-tu aux esprits? Wow, c'est ésotérique, mais de là à dire que c'est des esprits. Je sais pas. Un de mes professeurs de théologie à l'université, dans le temps, il va enseigner en Haïti une fois par année. Le professeur, c'était très, très libéraux. Et puis, en Haïti, il a, je ne sais pas si on peut dire privilégié, mais il a assisté à une messe vaudou. Puis, il commence à nous conter ce qu'il a vécu là-bas. J'ai levé ma main. On n'était pas beaucoup dans la classe. J'ai dit, « Pé, tu crois-tu aux esprits maintenant? » Et je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je peux dire qu'un humain ne fait pas ça. Mais sa théologie, il faisait en sorte qu'il n'était pas capable de dire clairement si oui ou non. Mais le christianisme biblique admet l'existence de choses en dehors de nous, qu'on appelle des démons, des anges, des principautés, des dominateurs des ténèbres, qu'on appelle Satan. On croit à l'existence de l'esprit de nous. J'ai un esprit, vous avez un esprit, je ne sais pas s'il est là dans mon genou ou dans le pied, mais en tout cas, ça existe. Et on aborde le monde d'une certaine façon. En ce qui concerne Satan, qui veut dire adversaire, quelques points importants à noter. Un, ce n'est pas une force impersonnelle. C'est pas comme dans le bouddhisme avec le yin et le yang, puis là, le bien est en confrontation avec le mal, dans le puis là, il y a tout un... Non, c'est pas le bien et le mal, puis très bien illustré en passant dans Star Wars, une philosophie bouddhiste, Star Wars, la guerre des étoiles. Mais c'est pas comme ça. Mais si c'est pas une force impersonnelle, donc, il est une personne. Un des beaux textes qui concerne Satan, c'est dans Ézéchiel 28. Si vous voulez tourner, je vais lire la section. C'est un bon texte qui... Dans ce texte, c'est une prophétie qui est adressée au roi de Tyr. Mais notez le langage qui est véhiculé, et on sait que ça ne concerne pas le roi de Tyr, mais quelqu'un qui est plus grand que lui. Et on va lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils d'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Ce n'est pas le roi de Tyr, ça, là. « Tu étais couvert de toute pierres précieuses de sardoise, topaz, diamant, chrysolite, d'onyx, jaspe, saphir, escarboucle, d'émeraude et d'or, tambourin, et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi, par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. On voit une personne dans le texte extrêmement puissante qui semble même avoir été créée pratiquement de façon spéciale. Tu fus préparé pour le jour où ce que je t'ai créé. Tu étais mon premier. Mais il s'est passé quelque chose. Puis il est chuté. Mais on voit les traits de personnalité de cet être-là. Il y a d'autres textes dans la Bible qui en parlent. Isaïe 14, par exemple, dit « L'étoile du matin est tombée, je t'ai vu tomber du ciel », puis tout ça. Encore à travers une prophétie qui est pour un autre roi, mais dans le langage, on voit que ça s'adresse à lui. On voit la personnalité de Satan dans le jardin d'Éden. Il est venu sous la forme d'un serpent. Et mon troisième observation concernant Satan, c'est qu'il est créé. Colossiens 1,16, par exemple, nous dit Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, ici parle Jésus, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. La logique est simple. Jésus a tout créé, Satan est créé, donc c'est Jésus qui l'a créé. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Satan est créé. Il n'est donc pas omniscient. Il ne connaît pas toutes choses. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas partout en même temps. Il est limité. Il est limité, par contre, si on regarde dans l'Apocalypse, il a entraîné, il semblerait probablement le tiers des anges avec lui, des esprits, de toutes les autres choses. Et donc, son armée qui l'a suivi, et le terme myriade, pour une myriade, c'est environ 10 000. Il est myriade de myriades. Donc, sa force est quintuplée à cause de l'armée qu'il a réussi à soulever. Et ma quatrième observation, et on le voit très bien dans Job, c'est qu'il agit sous la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, pas lui. Et notre texte ici, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » La force souveraine de Dieu va déterminer l'issue de notre combat. Et quelle est la stratégie de l'ennemi? Le doute, Genèse chapitre 3, Jean 8, nous montre des exemples de ce qui vient pour nous faire douter. La persécution avec Job, créer des divisions, Corinthiens par exemple, en persuadant de faire confiance en nos propres moyens, l'autosuffisance, on voit des exhortations dans les lettres, dans l'Apocalypse. Et un que je trouve excessivement intéressant, c'est dans 2 Corinthiens 11, 14. Vous connaissez le passage. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est intelligent. Il connaît la vérité. Et son objectif, c'est de s'approcher tellement proche de la vérité qu'à un moment donné, on n'est même plus capable de la discerner. Et notez que c'est une des choses qui revient dans les textes dans le Nouveau Testament, où ce que Satan, il est présent et il veut attaquer la vérité, il veut la diluer, il va utiliser l'erreur dans l'Église pour essayer de créer des divisions, pour essayer de faire tomber les leaders. Et notez le lien avec la première arme du chrétien, du croyant. Au verset 14, il commence la liste des armes dans Éphésiens. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais il continue, la cuirasse de la justice, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Et on va voir qu'il y a des temps de verbe spécifiques pour ces trois-là. Et je doute que Satan, une des plus grosses armes qu'il a, c'est l'erreur. On le voit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, 14, il se déguise en ange de lumière. Et dans la même lettre, 2 Corinthiens 4, 4, il nous dit quoi? Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Il agit de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas la gloire de Christ. Et ça, ça nous laisse entrevoir la nature de notre combat. C'est un combat universel qui oppose Dieu, sa vérité, et Satan, qui est le père du mensonge dans d'autres textes. Et c'est résumé au verset 12. Et notre combat, nous, parce qu'on est pris là-dedans, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et comment que je fais pour lutter? C'est quoi ma lutte là-dedans? Je suis appelé à prendre une mitraillette et à tirer tout ce qui n'est pas chrétien? Ben pourtant, le Coran, il y a un verset qui dit que si un chrétien, un juif ou un païen ne se convertit pas, tu as le droit de le tuer. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Le combat est contre Dieu. Mais c'est qui la cible? C'est nous. C'est les leaders. C'est contre Christ. C'est contre son œuvre. Contre l'Évangile. Contre la progression de l'Évangile dans le monde. Et l'exhortation principale dans notre passage, elle se trouve au verset 14. Tenez donc ferme. Tenir ferme, c'est ce que nous avons à faire. C'est comme ça qu'on va faire, qu'on va avoir notre combat. Et c'est pas de prendre une mitraillette puis de tuer du monde ou de mettre du C4 dans un IGA. Là, ça va loin. C'est pas ça là, le but du christianisme. Le but du christianisme, c'est pas une chasse aux sorcières ou la pratique d'exorcisme. Parce que notez que les armes du croyant concerne moins, c'est pas une liste de comment réussir à faire un exorcisme quand je vois quelqu'un qui est possédé, là, c'est pas ça. Là. Mais tous les outils qu'on a, qui sont à notre disposition, concernent la vie chrétienne normale. Il y a des personnes qui pratiquent des exorcismes. Je sais pas, avez-vous déjà entendu ça quelque part, « j'ai lié Satan » ou « faut que tu lies Satan », tu sais, ça vous trouble-tu ça? Il y en a-tu qui ont vécu ça, je suis tout seul? J'en parle-tu? Lever la main, sinon je vais sauter de sujet. Mais c'est quoi lier Satan? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te lis. Une incantation? C'est une formule magique? Ça ne veut rien dire. Mais quand il nous approche, ces mouvements-là, souvent charismatiques, en fait, toujours, mais c'est comme s'ils ont quelque chose que nous autres, on n'a pas. Ah, moi, je suis spirituel. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Je vais prier en langue, je vais faire des... Moi, je prophétise, mais une prophétie dans le sens d'une révélation. Moi, je suis plié direct avec Dieu, donc j'ai le pouvoir de lier Satan. J'ai entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas ça que la Bible a dit. Ton combat, c'est pas de lier Satan. Là. Ça, la seule place que je vois ça, c'est dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui le fait. Pas nous autres. Mon combat véritable, c'est pour la pureté. C'est un combat de persévérance. Tenez donc ferme. Tenir ferme, c'est un langage de persévérance. Puis dans la Bible, là, en ce qui concerne les exorcismes, là, et puis ça revient en mode. Hein, il y a plein de films, ça joue à la télé. Il y en avait un hier, justement, ces exorcismes, puis tout ça. Ça revient en mode. On est tous passionnés de ça. Là, wow, les exorcismes, Paranormal 3 qui est au cinéma. C'est à la mode, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Tu sais, on ne trouve pas de méthode dans la Bible là, de faire des exorcismes. Non, à part Jésus et les apôtres, là, c'est pas quelque chose de commun. Là. On n'est pas appelé à faire ça, mais on est appelé à avoir une vie pure, par contre. On est appelé à avoir une vie pure parce que quand je ne le suis pas, les âmes de Satan utilisent ça pour détruire l'Église et la progression de l'Évangile. Dans notre vie, dans l'Église, dans la société. Mon attachement aux moyens spirituels que Dieu nous donne dans sa grâce servent à purifier nos âmes, afin justement qu'il ne reste plus de place, afin qu'il puisse nous faire tomber. Puis, écoutez le langage biblique. Je vous lis des passages. Jacques 2, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Notez les verbes, résister. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez, veillez. Éphésiens 6, 11, 13 et 14. Tenez ferme. Éphésiens 6, 13, résistez dans les mauvais jours. Trois auteurs, trois places où ce qu'on dit, où ce qui, voyez l'unité de la Bible, c'est pas juste Paul là, qui dit, faites pas des exorcismes, là, puis pensez pas à ces choses-là. Là. Non, non, la Bible, de façon générale, l'appel, c'est un appel à la persévérance. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Tout ce que nous sommes appelés à faire dans cette grande guerre spirituelle au sein de laquelle nous nous trouvons, c'est de résister et de tenir ferme. C'est un bon résumé. Tenir ferme, c'est l'exhortation principale. Il revient trois fois, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Remarquez, les armes de Dieu. Est-ce que Dieu a des armes? Ou c'est les armes que Dieu pourvoit pour nous? Et ça, c'est le langage d'Isaïe, ou ce qui est en train de décrire le Messie. Dieu décrit son... J'ai oublié, mais j'avais amené une feuille avec les passages dans Isaïe. Là, si vous les voulez, je vous les donnerai. Mais il décrit le Messie qui va venir et il se revêt des armes de Dieu. Le Messie Dieu va venir avec ses armes. Et c'est sensiblement la même image qui est décrite dans Éphésiens. Verset 13. Résistez dans les mauvais jours, tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. L'exhortation principale. Résister dans les mauvais jours, tenir ferme après le combat. Autrement dit, verset 13, je vois deux choses là-dedans. L'interprétation est un peu personnelle, mais c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, on va résister au cœur du combat, mais tenez ferme après avoir tout surmonté. Je l'ai résumé comme ceci, c'est-à-dire, on pourrait le dire comme ceci. Au verset 13, vous avez résisté lors de la bataille, tenez ferme ou persévérez dans les jours de paix qui suivent un combat. Parce que, donc, au verset 14, quand le combat n'est pas apparent, la persévérance est renforcée par l'attachement aux armes de Dieu. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va tomber. Combien de personnes dans nos églises ont vécu tout un combat dans des temps extrêmement difficiles? Des temps de persécution au travail, tout ça, puis sont fermes dans la foi, puis ils affirment l'Évangile, puis ils finissent leur vie, puis alcoolique ou autre. Le combat, c'est pas juste pendant l'épreuve, c'est une persévérance quand il ne semble pas avoir de combat. Et au Québec, ben, il ne faut pas se cacher hein, qu'il ne semble pas avoir de combat, fait que c'est une bonne exhortation pour nous. Et cette interprétation est renforcée si on lit le passage littéralement. J'ai amené la Darby parce qu'elle est plus proche de l'original, parce que les temps de verbe, en ce qui concerne les trois premières armes, c'est un subjonctif, c'est-à-dire, je suis pas prof de français, je vais le lire. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé à vos pieds de la préparation de l'Évangile de paix. Donc, c'est une action qui est commencée dans le passé et qui continue. C'est un langage de persévérance, de permanence. Les trois premiers, permanents, vérité, justice, évangile. Et les verbes utilisés pour les trois autres qui vont suivre, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est un langage qui est proche de prenez. C'est à votre disposition. C'est à votre disposition. Mais les premiers sont permanents. Pourquoi? Comment comprendre ça? La foi, le salut, la parole ne doivent-elles être pas aussi être permanentes dans nos vies? Non, Paul nous dit, prenez toutes les armes de Dieu, toutes, pas juste les trois premières. Mais ça attire l'attention sur le fait que le combat va être de longue durée. Et même si il semble pas avoir de combat, il faut conserver toutes ses armes en tout temps, toujours. Mais en ce qui concerne les premiers, nous avons déjà été revêtus et ça nous fait prendre place dans le combat. Commençons par la ceinture de vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Les commentateurs donnent généralement deux interprétations pour le terme vérité. La première, elle peut vouloir dire la vérité de Dieu. Donc, l'ensemble de la théologie puis de la doctrine chrétienne. Prenez toute la théologie, là, puis soyez solide là-dedans. Ou, à cause qu'il n'y a pas l'article « la » vérité, le « la » n'est pas présent, mais il y en a qui vont dire que ça réfère à notre obéissance ou la sincérité de notre cœur. Par exemple, John MacArthur résume son interprétation dans son commentaire. « Je crois qu'avoir au rein la vérité pour ceinture, c'est principalement être discipliné et totalement engagé. » Mais est-ce que avoir la ceinture de la vérité veut simplement dire l'obéissance? Ou l'engagement. Et pourquoi faire le choix entre les deux interprétations? Pourquoi que les deux ne seraient pas vrais? John Stott, avec sagesse, nous dit, « Nous n'avons pas besoin de choisir entre ces deux alternatives. » Pourquoi? La Bible enseigne que la vérité propre ou notre obéissance commence par une connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu, de la vérité de Dieu, si toutefois elle est connue, conduit inévitablement un changement de vie qui sera compatible avec la nature de Dieu. Il est significatif, James Boyce, qui complète en disant, il est significatif que Paul place la vérité en premier. Cela suggère que tous les succès dans cette guerre spirituelle commencent par la fixation ferme des grandes doctrines chrétiennes dans notre esprit. Autrement dit, dans le christianisme, la vérité vient en premier, ensuite l'action. On cherche souvent des pragmatiques dans l'Église. T'sais, on a plein de projets, on a plein de choses, on a plein de... Puis là, on veut du monde qui s'investisse. Puis là, oui, il faut venir. Mais de se lancer dans un combat pas préparé, c'est non seulement non intelligent, là, mais c'est pas biblique, c'est pas ça que ça veut dire. Et la vérité, on doit admettre que c'est quelque chose qui est extrêmement attaqué dans notre société. De toute façon, la vérité n'existe pas, ça c'est relatif à soi-même. Mais c'est subtil, mais même dans l'Église. De façon subtile, on cherche à diminuer la valeur ou la puissance que procure la vérité. Par exemple, je me suis promené dans quelques églises pour enseigner, et je pense qu'il n'y a pas une place, de façon directe ou indirecte, incluant l'Assemblée ici, là. Il n'y a pas une place, de façon claire ou subtile, qu'on ne m'a pas fait comprendre l'importance des applications. Mais la théologie, ça par exemple, tu sais, c'est ça. C'est une prédication, c'est correct, mais pas trop. L'important, c'est les applications. Et je l'ai entendu de nombreux prédicateurs. Et ma réponse est assez simple, c'est s'il y a un danger pour ça. Il y a un réel danger pour ça, parce que est-ce que c'est ta théologie personnelle propre qui va déterminer l'application? Deuxièmement, les applications, c'est de la théologie appliquée. On ne peut pas dissocier la théologie des applications. Si la théologie n'est pas pratique, ça ne donne rien. Je vous ai conté, je ne sais pas si vous étiez là, Jonathan Edwards, on disait que sa théologie, ses applications étaient toujours théologiques, mais sa théologie était toujours pratique. Je pourrais donner le même exemple avec Martin Lloyd-Jones, puis je pourrais donner le même exemple avec plein de monde. On ne peut pas dissocier la théologie des applications, là, comme si c'était deux mondes séparés. Là. T'sais, je comprends ce qu'on essaye de faire, tu sais. Je comprends, là. T'sais, on tente de nous dire que, je l'ai résumé, nous voulons que les gens dans l'auditoire sortent avec quelque chose de pratique. C'est ça, je me suis fait dire ça. T'sais, je comprends ça. Mais la théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. C'est l'étude du caractère de Dieu. C'est l'étude de sa personne, de son plan de rédemption pour nous. C'est l'étude de son retour, c'est l'étude du plan pour nous. C'est pas applicable, ça, là. Je sais pas. C'est l'étude de l'Évangile. Puis comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que je suis le seul, puis là je vais être clair là-dessus. Je suis pas en train de dire que je suis le seul qui est correct. Puis je ne suis surtout pas en train de dire que toutes ces personnes-là autour sont pas correctes. Parce que là-dedans, il y en a des grands prédicateurs, mais de façon subtile, on cherche, tu sais, puis on s'en rend pas compte. Puis à force de me le dire, c'est là que j'ai allumé, parce que moi aussi, j'ai déjà eu un discours comme ça. Puis à essayer de miser sur des applications, c'est ça le plus dur d'une prédication. Parce qu'à peu près tout le monde ici là, va ressortir avec quelque chose. C'est ça le plus dur. On lutte tout avec ça, les prédicateurs. Puis on ne frappe pas tous des circuits à toutes les prédications. Là, c'est... Non. Je veux simplement faire la mise en garde avec la subtilité avec laquelle ça peut venir dans l'Église. Un bon exposé théologique va découler de bonnes applications. À l'époque, quand je me faisais suivre par quelqu'un qui, pour la prédication, il m'a dit, j'ai trois buts pour la prédication. La clarté, la vérité, ça c'est la tête. Je l'ai écrit au début de ma Bible, j'ai une feuille comme ça avec des notes personnelles. La prédication vise trois buts, la clarté, la vérité et la passion. Les deux premiers concernent notre tête, le troisième, notre cœur. Mais posons-nous dans ce cas la vraie question. Oui, on veut qu'il y ait des bonnes applications. Mais voici la question. Qu'est-ce que les gens ont besoin réellement? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, ici, à soir, pour que la prédication change votre vie? 8 applications, une petite incantation, pas incantation, méthode pour surmonter mon anxiété. Pas besoin d'une recette, là. C'est pas une recette qu'on a de besoin, c'est Dieu. C'est l'Évangile qu'on a de besoin. Et l'Évangile ne se focalise pas sur ce que nous devons faire pour Dieu, mais plutôt ce que lui a fait pour nous. Éphésiens, c'est une des lettres les plus pratiques de tout le Nouveau Testament. Ça concerne l'Église, on passe le leadership là-dedans, les serviteurs, les esclaves, mari, femme, il y a les dons spirituels là-dedans, il y a la guerre spirituelle, marcher par l'Esprit, prier par l'Esprit. Il y a plein de choses incroyables dans Éphésiens, mais Éphésiens commence comment? La plus longue phrase ininterrompue dans le grec sur qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Je fais juste commencer la lecture. Béni soit le Dieu et Père de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, moi j'ai rien fait, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés. C'est l'évangile, ça. Il nous a adoptés pour célébrer sa gloire. Et ça continue comme ça pendant 20 versets environ. Donc, on voudrait dire que le chapitre 1, il n'y a aucune application. Hein, la théologie pure. Non, c'est pas ça. Fais attention. La vérité va façonner notre caractère, et donc de la prédication, parce que la vérité, elle ne vient jamais seule. Elle vient avec l'amour, la sainteté, la bonté, la justice. Regardez Éphésiens 4, 15. Mais en disant la vérité avec amour, la vérité n'est pas toute seule. C'est pas reprendre avec la vérité le plus haineux, de la façon la plus dure que tu es capable avec cette personne-là. Non, non, non. La vérité façonne notre caractère afin qu'on puisse y aller avec amour. 4, 24. Et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 5, 9. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Attaquer la vérité. Attaquer la vérité, c'est attaquer l'Évangile. Attaquer ça dans l'Église, là. Tout le reste du caractère chrétien va suivre. Tout. On veut être transformé par la vérité. Vous trouvez que votre vie dans l'Église du Cap ici, ou au travail, ou vous trouvez votre vie plate au bout, ben c'est peut-être parce que votre vie spirituelle, il ne se passe pas grand-chose aussi. Les armes de Dieu commencent ici par la ceinture de la vérité et se terminent comment? Par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La Bible donne un haut standard concernant la vérité. Voici quelques applications pour faire un paradoxe, parce que toute bonne théologie, comme j'ai dit, va être applicable. Et donc, j'en ai fait une série. Et là, c'est un peu arbitraire ce que j'ai fait. Commençons par nous-mêmes. Avant de changer le monde, interrogeons-nous et examinons-nous honnêtement. Est-ce que je connais le scénario de la Bible? Est-ce que je connais le plan de rédemption de Dieu pour nous? Est-ce que je connais l'Évangile d'une façon profonde et intense qui transforme mon caractère? Qu'est-ce qu'on dit autour de moi? Comment je suis perçu au travail dans mon milieu quand je vais amener mon enfant à la garderie, quand que je vais au restaurant puis que je réponds à la serveuse parce que ça a pris une demi-heure de plus que prévu, quand que je m'en vais au comptoir puis que la fille est bête? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Est-ce que je connais le plan de rédemption? Justification, rédemption, adoption, glorification, sanctification. Qu'est-ce que je connais de ces choses? Kevin DeYoung, en fin de semaine, nous a beaucoup impressionné, mais il a publié un livre. C'est un jeune homme de 34 ans qui nous a dit ceci dans un de ses livres. Apparemment, certains d'entre nous ont une peur bleue de parler de Dieu. Serait-ce faute de connaissance à son égard ou préférons-nous vivre dans la médiocrité? Élargissons maintenant, on va s'examiner soi-même et faites-vous-en pas, j'ai passé la fin de semaine à faire une introspection de moi-même, j'ai dormi 4 heures. Allons, leader. Alors, allons-y, parents. Le plus haut standard dans la Bible, c'est l'Évangile. Est-ce que vous êtes en train de transmettre à vos enfants que l'Évangile est l'ultime priorité? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être obéissants, là, puis qu'ils vont jamais être rebelles, puis qu'ils ne feront jamais de faute, puis qu'ils feront. Mais est-ce que de façon générale, je suis en train de dire à mes enfants par ma vie, par mes enseignements, que l'Évangile est la principale chose pour moi. Faisons un pas de plus. Leader, U-turn et école du dimanche. Croyez-vous réellement que Dieu peut transformer les jeunes qu'il vous a donnés par grâce? Les croyez-vous vraiment? Et si oui, faites-vous les efforts pour vous investir pour cette jeunesse. Vous savez, quand je parle d'école dimanche, j'ai toujours une crainte dans ce sujet-là. Là, je vais être clair dans ma crainte. C'est que on dit qu'à l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine, on mise sur les enfants, c'est notre vision, puis on investit pour notre jeunesse. OK, comment il manquait de professeurs? On investit, par exemple, on lui a donné de l'argent, au bout, on s'est déresponsabilisé, on lui a donné 5 000 $. OK, mais l'investissement, c'est pas juste de l'argent, c'est vous. L'argent, ça, c'est pas grave. Si vous vous investissez, le reste va suivre. C'est un problème dans l'Église. C'est un problème dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, là, il y a une classe qui est regroupée. Fait que là, il y a des 13 ans, 12 ans avec des 7 ans, je pense. C'est comme, tu sais, wow, ils vivent la même chose, tu sais. Je vais être touché par l'Évangile. Fait, tu parles à un, l'autre comprend rien, vice-versa. L'autre, il y en a un qui te trouve plate parce qu'il dit tu parles trop aux jeunes. Puis, tu sais, mais on investit dans notre jeunesse. Mais si vous êtes investi pour la jeunesse, puis que vous vous donnez, j'ai une exhortation pour vous. Donnez ferme. Vous êtes une cible. Puis comprenez que je ne veux pas mettre le blâme sur l'Église ou sur personne. Puis mes exhortations, je les dis vraiment dans un esprit de défi. Je ne suis pas fâché après personne. Je descends si je suis capable d'aider Guy le dimanche. Puis tu sais, je m'intéresse à ça. Tu sais, je suis diacre, là, j'ai vu les budgets passer. Puis je veux m'investir pour la jeunesse. Mais en même temps, je veux vous relever un défi. On s'investit, c'est correct. Faisons un pas de plus, face à face. Puis ici, ben, je me regarde moi-même, parce que je suis un peu... On m'a dit que je suis une personne ressource, c'est ça? J'ai des manquements, comme bien d'autres. Je commence la série de questions. Combien de personnes du face à face enseignent au sein du groupe? Est-ce qu'on est en train de se déresponsabiliser en allant chercher tout le temps des personnes à l'extérieur ou trop souvent? Moi, je me rappelle, on m'avait dit que face à face, le sigle au départ, c'était FAF, formé adulte dans la foi, qu'on a décidé de mettre face à face. C'est ce qu'on m'a dit, que ça avait commencé comme ça. Je vois plus de jeunes qui enseignent. Et ça serait trop facile de dire, c'est de la faute au leader. Et j'apprécie Lise, puis Adama, puis j'apprécie les autres qui sont dans le groupe. Je les apprécie parce qu'ils font, ils sont là pour vous. Ils vous aiment et ils s'investissent. Mais regardez-vous aussi. Comment il y en a qui sont quasiment sur le bord de devenir diacre? Là-dedans, il y en a des adultes là, de 23, 24, 25 ans. Ça va faire 8 ans là, l'année prochaine là, que je suis diacre. J'ai 29. Et notre jeunesse, là, come on. Mais comme j'ai dit, je le fais avec un défi. Et là, ben, on se dit, ben, par souci du groupe, on va faire venir du monde plus mature pour enseigner. Parce que quand que c'est quelqu'un de plus jeune, ben, qu'est-ce qu'on entend? Ouais, c'est assez basique, ça. Manquait de profondeur. Ouais, je fais plus de questions qu'il en a répondu. Il faut se regarder. Mais vous êtes leader dans le face-à-face, j'ai une exhortation pour vous. Tenez ferme. Vous êtes une cible. Puis je vous apprécie. Mais comme j'ai dit, c'est un défi que je lance à l'Église. Faisons un pas de plus, diacre. Et si je comprends la liste des futurs diacres, je pense que je vais tomber le plus vieux l'année prochaine, si on est tous élus. Et là, pauvre Église. Si je prends la liste dans 1 Timothée des qualificatifs pour les diacres, la seule chose qui différencie ou qui semble différencier le diacre avec l'ancien, c'est l'exigence ou l'aptitude à l'enseignement. Mais quand même, on lit, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la cupidité, des excès du vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Conserve un haut niveau de théologie. Même pour un diacre. Autrement dit, conservez l'ensemble de l'Évangile central, même dans votre ministère. Et je pose la question, ai-je un cœur pour l'Évangile et cela se reflète-t-il dans mon ministère, dans votre futur ministère? Et si c'est le cas, j'ai une exhortation pour vous. Le dernier verset de cette liste qui concerne les diacres nous dit ceci. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Pas par vos œuvres, parce que l'Évangile est au centre chez vous et l'assurance provient de cet Évangile dans votre vie. Dernièrement, j'ai passé face à face et toutes les autres, je faisais un pas de plus. Ancien. Il y en a au moins un. Avez-vous un ministère centré sur l'Évangile, sur la parole? Ce qui différencie le diacre de l'ancien, c'est l'aptitude à l'enseignement, ce qui présuppose au moins 2 choses. La première, c'est une connaissance. La deuxième, une capacité à le communiquer. Êtes-vous dans un processus, comme Éphésiens nous dit, de perfectionnement? Est-ce qu'il y a des temps spécifiquement consacrés pour la relève? La relève est-elle identifiable? Êtes-vous unis? Frères, permettez pas au diable de diviser. Vous êtes la cible principale dans l'Église. Êtes-vous capable de déléguer et d'investir dans le perfectionnement des saints? Est-ce que les décisions ou l'absence de décisions produisent l'unité dans l'Église selon les termes d'Éphésiens 4? Enfin, à tous ces groupes que j'ai mentionnés, j'en passe énormément. Et on peut s'attendre à avoir de la souffrance. On est en guerre. Vous avez fait des erreurs, anciens, responsables du leadership, du face-à-face, professeur, moniteur, école du dimanche, responsable du son, celui qui passe la mop, la grâce existe. C'est pas vos efforts qu'on veut, c'est votre cœur. C'est ça que le Seigneur veut, des vies transformées par l'Évangile. Je termine par une illustration, et là je saute beaucoup, je m'excuse, j'ai dépassé. Une illustration pour mettre en lien toutes ces choses et que je n'ai pas dites. James Boyce, dans son commentaire, raconte que John Gertzner, théologien des années 1900, dans un de ses exposés, a voulu mettre en relief dans un texte qui s'appelle « Le langage du champ de bataille ». Lui, il parlait de 4 combats. Satan contre Dieu, ultimement, Satan perd. Satan contre Adam, l'homme, qui était sans l'homme Dieu, sans Jésus-Christ, il a perdu. Adam a perdu. Satan contre Jésus, l'homme Dieu, il pense qu'il a gagné en tuant Jésus, mais sa défaite s'en vient. Et Satan contre Pierre, l'homme qui a rejoint l'homme Dieu. Satan a perdu aussi. Le contraste majeur dans tout son exposé réside entre le combat entre Satan et Adam et Satan et Pierre. Satan et Adam. Adam semble avoir tout à sa disposition pour réussir, sans péché, puis il a toutes les tendances affectives pour prendre les bonnes décisions. Mais il a chuté. Il s'en est pas remis à Dieu, à Jésus-Christ. Dans la seconde bataille, Pierre semble avoir rien pour lui. Dans Luc 23, par exemple, pas 23, 22. Pierre semble rien avoir pour lui. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et son audace l'a fait chuter. Et ça, c'est juste après que le Seigneur lui fait la prophétie, « Tu vas me renier trois fois. » Et tout de suite après, il renie. Mais dans la prophétie de Jésus, l'histoire n'arrête pas là, parce que le verset 31, juste avant, dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Écoutez le commentaire de Gertschner. En d'autres mots, Jésus dit à Pierre, « Tu es faible en toi-même. T'es comme une feuille trimballée par le vent. Mais je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Et puisque vous êtes, que tu es uni à moi, par cette foi qui sauve, j'ai prié pour toi. Et à cause de ma prière, tu ne seras pas détruit, mais tu vas être renforcé. Tu vas tomber, mais jamais loin. Tu vas être détourné de côté, mais jamais de dos. Et quand tu seras devenu un pilier, tu iras donner de la force à tes frères. » Pierre a dit, « Seigneur, je suis capable. » Quand Satan est arrivé, il a chuté. Pierre a découvert qu'il n'était pas capable. Et donc, Pierre a dû reformuler, « dont je suis capable » avec ces mots, « avec toi, je suis capable. » Frères et sœurs, le combat est réel, il est présent, il est là, même si on ne semble pas le voir. Mais avec Christ, en conservant l'Évangile central dans nos vies, on est capable. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, donne-nous de pouvoir vraiment garder l'Évangile central dans nos vies. Transforme nos cœurs par cette vérité. C'est une vérité qui produit quelque chose dans nos vies par ton esprit, Seigneur. Applique ces paroles. Applique ces paroles dans nos cœurs. Parce qu'on veut abonder en bienfaits, bonté, amour, sagesse. On veut toutes ces choses. On le désire, Seigneur, parce que tu es comme ça. Et tu déverses ces choses en nous, Seigneur. Garde-nous. Garde nos leaders dans nos foyers. Garde nos anciens de la division. Garde nos anciens et nos diacres, Seigneur. Garde les papas et les mamans ici. Garde les groupes face à face. U-turn, l'école du dimanche. Suscite des personnes qui vont être capables de prendre le leadership. Suscite des enseignants. Suscite des personnes qui vont être fermes dans la vérité, Seigneur. On te demande toutes ces choses par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.